Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça a été préparé par notre frère Irvin Alexis. Je suis persuadé qu'il aurait eu beaucoup plus d'exemples de vie pratique, de choses qu'il a vécues à mettre à l'intérieur de la présentation. Malheureusement, Irvin ne peut pas être ici, alors il m'a demandé de faire le travail à sa place. J'ai respecté son texte, presque à 100%. Alors, vous me pardonnerez si j'en fais une espèce de lecture active, finalement, parce que je veux vraiment rester à l'intérieur de ce que lui avait préparé pour que vous puissiez bénéficier vraiment le plus possible, malgré son absence, quand même de son expérience et de sa vision des choses. D'accord? J'ai illustré certains points avec certaines diapos pour qu'on puisse bien comprendre. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ayant vu et entendu les présentations que vous avez eues de la part de Harold hier matin et de Lina hier après-midi, et fort de l'expérience que vous avez eue de votre porte-à-porte, vous allez voir que finalement, ce dont je vais vous présenter, vous l'avez un peu déjà vu. Et vous l'avez déjà un peu vécu. Mais il y a une chose, par contre, qu'on va voir ensemble, et c'est un peu plus d'histoire par rapport au peuple québécois, qui il est le peuple québécois. Et là, peut-être que vous allez comprendre des choses par rapport aux interventions qu'on a déjà faites hier, surtout, et peut-être aussi par rapport aux expériences que vous avez eues lorsque vous avez fait du porte-à-porte. Alors, notre frère Irvin nous dit que lorsqu'un individu décide de partager sa foi avec quelqu'un d'autre, consciemment ou non, il entreprend d'influencer ce dernier. Psychologie. Et ce, en provoquant chez lui une remise en question de ses opinions au sujet de ses croyances, et dans le but de modifier celle-ci, de modifier les croyances, et d'amener donc son auditeur à changer de comportement. Est-ce que ce n'est pas un peu ça qui se passe chez le chrétien, la personne qui devient chrétienne? Ton ancienne vie est passée, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Exactement de ça dont il s'agit. Alors, sans y penser, celui qui partage sa foi entreprend une action dont les conséquences peuvent s'étendre au-delà de la personne à qui on s'adresse pour affecter aussi tout son environnement, environnement affectif, le travail, les amitiés, la famille, etc. Je suis sûr et certain que vous connaissez des gens qui ont peut-être dû abandonner leur travail à cause de leur nouvelle foi, qui peut-être n'ont pas eu les mêmes liens familiaux qu'auparavant à cause de leur nouvelle foi, donc il y a tout ce changement-là qui prend place. Alors, quand vous parlez de l'Évangile et de Dieu à quelqu'un, ça a un impact vraiment profond sur la vie de cet individu. Alors, il est important de comprendre l'évangélisation dans cette optique-là et de comprendre le comportement réactionnel de celui que l'on désire évangéliser. Prochaine diapo. Chaque individu, donc, est unique dans sa personnalité, son stade de réflexion, sa capacité d'écoute et de compréhension et dans ses expériences passées. Ce n'est pas tout le monde qui a la même expérience de vie. Chaque individu est vraiment unique. On comprendra donc l'importance de l'approche à adopter quand on se lance dans cette aventure pour Jésus, plus particulièrement pour nous, au Québec. Prochaine diapo. Alors maintenant, on va parler un petit peu d'histoire. Vous avez une belle diapo ici. Qui reconnaît à peu près l'image qui est là? Ça vous fait penser à quoi? Beersheba. Beersheba? Ça vous fait penser à Beersheba? Pourquoi ça vous fait penser à Beersheba? Hein? C'était quelle église à l'origine, Beersheba? L'église catholique. Bon, maintenant, on va parler un petit peu du Québec. Notre frère Alexis nous dit qu'il est important de connaître l'histoire d'une société afin de commencer, et je dis bien commencer à comprendre le comportement de ceux qui la composent. Ainsi, la connaissance d'un peu d'histoire du Québec aidera à mieux comprendre l'attitude des Québécois quand il s'agit de sujets qui ont rapport avec Dieu, la moralité ou la religion. Alors, le Québécois, au moment de l'arrivée des premiers aventuriers en provenance de France, le Québec, pardon, était une vaste étendue boisée, peuplée en partie par bêtes sauvages, membres des tribus qui forment aujourd'hui ce qu'on appelle les Premières Nations. À cause de l'étendue du territoire, ces premiers occupants du pays vivaient, donc on parle des Autochtones, les premiers occupants du pays vivaient distants les uns des autres, Et comme occupation, ils vivaient surtout de la chasse, de la pêche et d'un peu d'agriculture. Donc, pas extrêmement évolué. Ce n'était pas une société européenne qu'il y avait ici au tout départ. Les premiers colons arrivés de France étaient venus s'installer dans le pays pour de courtes périodes afin de se livrer à la chasse en vue du trafic de la fourrure qui devait être expédié en Europe. Dès le début de cette nouvelle immigration en territoire d'Amérique, des prêtres de différents ordres religieux, surtout catholiques, sont venus s'implanter au Québec dans le but d'évangéliser les Amérindiens, indiens, qu'ils appelaient des sauvages. Il importe de se rappeler que l'Église catholique, dans la personne de ses cardinaux, était le pouvoir qui dirigeait la politique en France. Ainsi, on comprendra bien pourquoi l'Église de France a programmé la colonisation de 7 grandes étendues de terre en encourageant les marchands de fourrure à s'installer au pays. C'était des hommes, pas vrai? Ils avaient donc besoin de femmes pour pouvoir fonder des familles et ainsi passer de coureur des bois à une occupation beaucoup plus sédentaire. Alors le gouvernement français, on parle toujours d'histoire ici, hein? Le gouvernement français a exporté au Québec une multitude de prostituées qui écumaient les rues des villes de France et les a envoyées dans la Nouvelle-France afin de racheter leur âme en devenant d'honnêtes mères de famille. C'est ce qu'on a appelé les filles du roi. En France, comme au Québec, l'Église catholique était le pouvoir qui régissait la vie publique. L'Église catholique contrôlait les premières institutions sociales au Québec et avait en main l'éducation, en contrôlant le système scolaire, la religion et la morale, en étant l'Église officielle chargée de diriger les humains vers le paradis. Elle était aussi le système de santé, avec les sœurs à la direction des institutions de santé comme les hôpitaux, les sanatoriums et les hospices. L'Église formait un gouvernement parallèle. C'était un État dans l'État. Elle possédait, l'Église catholique, possédait la majorité des terres du Québec et les meilleures terres lui appartenaient. Le système féodal qui était en vigueur en France s'est installé aussi en Nouvelle-France, au Québec, et contribuait à l'enrichissement de l'Église pour qui les paysans travaillaient en échange de l'utilisation des terres pour leur famille. L'Église catholique, sous la direction des évêques, décidait du développement de la colonie. Lorsque les évêques de Montréal décidèrent d'établir de nouvelles paroisses, ils offraient des terres à tous ceux qui acceptaient de venir s'installer dans ce nouveau développement. Et c'est vraiment comme ça que ça se passait. L'Abitibi, c'était une terre de roches et d'arbres. Et les colons montréalais, surtout, qui ne pouvaient pas trouver du travail en ville, et qui se sont décidés à prendre des terres là-bas, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont déchanté, les amis. Épouvantable. L'Église offrait des terres ailleurs pour que le territoire se développe. C'était sa façon de coloniser religieusement. Elle possédait, elle avait l'entreprise, et faites bien la différence entre propager l'Évangile et la façon dont l'Église catholique fonctionnait. Elle se propageait pour occuper le territoire, pas pour aller parler de Dieu. Ça, c'est ma petite parenthèse et je la referme maintenant. Je retourne au texte. L'Église était au centre de la ville aussi. Le nom du village, par exemple, relevait du nom de la paroisse. C'est pourquoi au Québec, la plupart des villes et des villages portent des noms de saints catholiques. Montréal s'appelait comment au tout début? Ville Marie. Laval, l'île que Laval occupe, l'île Jésus. D'accord? Et puis vous avez dans tous les villages, c'est des noms de saints. Et le village le plus reculé, je pense, il s'appelle Saint-Nulle-Part. Petite blague. Mais c'est comme ça au Québec. L'Église était aussi le centre commercial, d'où le nom de fabrique. Peut-être que vous avez déjà entendu ça. Voilà exactement. En fait, les églises catholiques, toutes les paroisses ont une fabrique. L'Église était le centre commercial. Le nom de fabrique adopté donc pour désigner les églises au Québec. La grande place des villages, où se déroulaient toutes les activités commerciales et sociales, se trouvait à être la place de l'église. Les curés contrôlaient la vie des villageois. Les prêtres travaillaient à la formation d'une élite sociale en choisissant de jeunes hommes doués pour les former comme notaires, éducateurs, etc. Et prêtres aussi. Les évêques constituaient la conscience du peuple. Ce peuple peu instruit dépendait des curés pour penser. Ils contrôlaient la croissance des familles en obligeant les épouses à enfanter chaque année au risque de voir ces femmes mourir d'épuisement. Les personnes âgées vous diront comment les curés étaient durs à leur égard et leur privaient du droit de participer au sacrement de l'Église à la moindre écartade. Le moindrement que tu ne respectais pas, que tu ne faisais pas ce que le curé disait en chair, tu étais ostracisé du reste du village. Tu étais la bête noire qui ne suivait pas le groupe. D'accord? De plus, le châtiment le plus redouté des catholiques, à savoir l'excommunication, était l'épouvantail que l'Église agitait régulièrement devant ses membres pour les soumettre. L'Église contrôlait toute nouvelle institution au pays. Le journal devait être au service de l'Église. Si un journaliste osait se plaindre de l'agissement de curés défroqués qui écumaient les familles, les évêques sommaient le journaliste de se rétracter, sinon ils utilisaient les chaires des Églises pour réduire à la faillite le dit journal en interdisant à tout catholique d'acheter de ses publications sous la menace de peine sévère de l'Église. L'Église catholique a joué aussi le rôle de tampon entre les deux communautés qui partagent la colonie, à savoir les Anglais ou anglophones, surtout protestants, et les Canadiens français, à savoir les catholiques. La politique de l'Église catholique au Québec visait à l'occupation progressive du territoire du Québec par la procréation. Voilà pourquoi au Québec, les grandes familles de 10 enfants et plus étaient chose courante. Peut-être pas tellement dans les villes, mais surtout dans les villages. La famille de ma mère, ils étaient 13 enfants. La famille de mon père, moins fortuné un peu, 2 enfants. Mais tout ce qui était, tous ceux qui étaient des cultivateurs avaient de très, 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 très grandes familles. Et les petites familles étaient souvent bien moins, ou vues de façon bien moins positive par la société et par l'Église. Je vais vous raconter juste une petite anecdote, je fais une parenthèse ici, et ça c'est pas dans le texte, mais il était bien vu pour toute famille québécoise d'avoir un de ses membres, donc un de ses enfants, qui fait partie de l'Église catholique, soit comme prêtre, comme sœur et tout ça. Mon propre père, ma grand-mère, voulait en faire un prêtre. Mon père, non, il ne voulait pas être prêtre, lui. Lui voulait être ingénieur. Ma grand-mère a toujours refusé de signer les papiers permettant à mon père d'aller dans l'armée pour étudier l'ingénierie. Ce qui fait que mon père s'est rebellé contre ses parents et il est devenu un alcoolique sévère. Et il a toujours refusé par la suite de retourner voir sa mère. Il a fallu que ma mère à moi, donc la femme de mon père, force les choses pour que mon père puisse retourner voir sa mère, mais c'est pour vous montrer à quel point, et donc ma grand-mère, ça aurait été la fierté de la famille d'avoir un curé. Pourquoi? Elle avait juste 2 enfants. Elle n'en avait pas 14. OK? C'était à ce point-là que l'Église catholique contrôlait les pensées des gens. Je retourne au texte maintenant. Ce fut aussi l'Église catholique qui a contribué à maintenir le fait français et éviter l'assimilation linguistique par les anglophones. Donc, l'Église se répandait par la procréation, faisait beaucoup d'enfants et colonisait les territoires, et en même temps, elle maintenait le fait français. Pourquoi maintenir le fait français? Pourquoi c'est important pour elle, vous croyez? Oui et non. Ils étaient qui, les anglophones? Des catholiques ou des protestants? si les protestants prenaient toute la place, si les anglais prenaient toute la place par rapport aux français, le catholicisme aurait été en chute libre. Donc, pour maintenir le catholicisme, l'Église imposait de faire des enfants et coloniser le territoire. Vous voyez un peu maintenant dans quoi est-ce qu'est le Québec. C'est du prosélytisme, ça, tout à fait. Alors, je continue avec le texte ici. Je referme cette parenthèse encore. Jusqu'au temps du premier ministre Maurice Duplessis, les prêtres étaient partout, bénissant les projets ou les réalisations du gouvernement. Ils étaient les conseillers des chefs d'État du Québec. Mais à la fin du règne de Duplessis et avec l'arrivée au pouvoir de Louis-Joseph Papineau, une révolution non violente a vu le jour au sein de la société au Québec. À partir des années 60, les politiciens au pouvoir ont manœuvré afin de retirer à l'Église ses pouvoirs en laïcisant les institutions qui faisaient sa force, écoles, universités, hôpitaux, services sociaux. Tous ces services ont été laïcisés, sécularisés. La société québécoise a du même coup secoué le joug de l'Église en rejetant ses institutions, en rejetant ses pratiques, en rejetant ses croyances, en rejetant sa morale. Et on le dit, soit plutôt aujourd'hui ou hier, la société québécoise, en rejetant l'Église, elle a aussi rejeté la religion, elle a jeté le bébé avec l'eau du bain. Avec cette sécularisation de la société québécoise, on a vu apparaître une nouvelle génération de penseurs qui prônaient de nouvelles idées de liberté. Ces nouvelles valeurs ont imprégné l'esprit des générations X et suivantes. Et ça a conduit la société québécoise à considérer que chacun a droit à ses opinions et que personne n'a le droit d'imposer ses idées à un autre. Et voici l'une des causes de la résistance intellectuelle du peuple québécois face à toute tentative de lui tracer un chemin selon le modèle de pensée d'un autre individu. L'individu a pris préséance. Les idées relativistes sont de plus en plus acceptées et on entend souvent des déclarations telles que « Mon Dieu est dans mon cœur, je ne l'impose à personne et je l'ai comme je le conçois. » Une nouvelle morale remplace l'ancienne. Ce qui était honteux ou tabou est désormais devenu admis, voire même légalisé. Du même coup, les anciens moralistes n'ont la cote que parmi les personnes du troisième âge. Et ils ont été relégués entre les quatre murs de leur chapelle, qui d'ailleurs ne sont plus très fréquentées. C'est dans ce contexte que nous devons prêcher l'Évangile à des gens hostiles à tout ce qui leur rappelle l'Église ou la religion. Toutefois, entre 1970 et 1980, il y avait encore beaucoup de Québécois qui, ayant perdu leur référence religieuse catholique, se sont ouverts aux autres groupes religieux, et plusieurs de ces groupes ont connu un développement important à cette époque. Malheureusement, l'Église adventiste au Québec qui vivait, elle aussi, sa crise de croissance, avec l'arrivée des nouveaux immigrants en provenance, surtout des Antilles, n'était pas prête à tirer parti de cette situation pour grandir. C'est avec l'arrivée des nouvelles personnes en provenance d'ailleurs que l'Église adventiste au Québec a commencé à se stabiliser et à se développer, d'où l'importance de ce que vous faites aujourd'hui. On constate donc que la société québécoise a été... Et ça, c'est une expression que j'ai sortie à un moment donné. La société québécoise a été tricotée avec de la laine catholique. Et vous devez vraiment comprendre la société de cette façon-là. Et bien que l'Église ait perdu son emprise, perdu ses racines, qui étaient si profondément ancrées dans la conscience québécoise, elle garde encore une bonne cote de popularité. Quand je dis l'Église, je parle de l'Église catholique. Une vaste proportion de la population pourra se dire catholique, bien qu'elle ne soit pas pratiquante, ni moins le moindrement attirée par les choses divines. C'est juste parce que c'est dans ses racines. Alors, prochaine diapo. Maintenant qu'on connaît un petit peu la situation au Québec, l'histoire du Québec, et qu'est-ce qu'on a eu, Quelle est maintenant la mentalité des néo-Québécois en provenance des Antilles? Parce que c'est bien beau de comprendre qui est le Québec, mais pour pouvoir travailler et l'évangéliser, il faut aussi qu'on comprenne qui sont les néo-Québécois. Parce que c'est un rapport entre deux groupes de personnes, pas vrai? Alors, il faut qu'on comprenne les deux groupes de personnes. Pour les néo-Québécois en provenance des pays chauds, l'évangélisation fait partie intégrante de la vie spirituelle de l'Église. En effet, dès leur baptême, ces nouveaux membres en provenance des Antilles, de l'Amérique centrale, du Mexique et du nord de l'Amérique du Sud, sont vendus à l'idée que tout disciple est formé pour être un missionnaire. Il est donc compréhensible que pour eux, une fois arrivés dans ce pays qu'est le Québec, qui leur offre son hospitalité, ils ressentent comme une obligation de partager avec tous le Christ qu'ils ont trouvé. Rappelez-vous cette anecdote que frère Benjamin nous a racontée hier, ce type qui dans l'autobus chantait et récitait la Bible, et puis il s'est fait sortir par les policiers. Hein? Et puis ensuite il s'en retourne à l'église et il dit « J'ai été persécuté au nom de Jésus-Christ, alléluia! » Ça faisait pas longtemps qu'il était au Québec, lui-là. C'était dans ses racines, dans sa nature d'agir de cette façon-là. Malheureusement, les méthodes en usage dans ces coins chauds de la terre ne peuvent pas s'appliquer intégralement dans la relative froideur de notre beau Québec. Aussi, afin d'aider les néo-Québécois à corriger leur approche dans le partage de leur témoignage, nous allons exposer, ici après, une approche plus efficace à adopter compte tenu du terrain dans lequel ils doivent travailler. Alors, en pays chaud, les gens vivent à l'extérieur surtout, vrai ou faux? Vivent à l'extérieur, donc partagent davantage ce qu'ils ont avec leurs voisins, parents et amis. Le style de vie est plutôt communautaire. Ici au Québec, les gens vivent enfermés 8 mois sur 12. Chacun s'occupe de ses affaires. Chacun s'équipe de tout ce dont il a besoin afin de ne demander de l'aide à personne. Si vous aidez un Québécois en difficulté, par exemple survolter la batterie de sa voiture ou encore lui prêter votre cellulaire pour faire un appel d'urgence, il se sent obligé envers son bienfaiteur, en sorte que s'il ne paye pas en retour, il se sent débiteur, donc en position inconfortable socialement par rapport à l'autre. Le Québécois est plutôt individualiste. Il réclame le respect de sa vie privée. Il considère certains objets comme relevant de sa vie privée et tolère mal que quelqu'un s'aventure dans ses affaires sans y être invité. Parmi les thèmes qui sont au cœur de la vie privée, on trouve en première position sa religion ou ses croyances religieuses ou morales. Voilà pourquoi celui qui veut évangéliser au Québec doit adopter une nouvelle approche qui sera basée sur le modèle qu'on va présenter. L'approche recommandée au Québec, c'est celle qui consiste à évangéliser par étapes. Alors, on va voir, surtout deux, peut-être même trois modèles, je vais faire référence au principe FORT, F-O-R-T, qu'on a vu hier, dans le troisième modèle. On va commencer avec l'approche par l'amitié. Prochaine diapo. Alors, avant de considérer l'application de cette méthode, il vous faut faire le ménage dans vos idées préconçues et voir en l'autre, non pas un prospect, une âme à conduire au baptême, mais plutôt un être humain comme vous. À qui vous offrez votre amitié? Peu importe s'il accepte vos croyances ou non. Il faut avoir un esprit ouvert et chercher à se mettre dans la peau de l'autre et tenter d'intérioriser ses propres réactions comme si vous étiez à la place de l'autre. Il convient d'adopter cette méthode lorsque la personne que vous voulez rejoindre vous est accessible de manière répétitive. Alors, la méthode de l'amitié pour les gens que vous pouvez approcher de façon répétitive, que ce soit un voisin, collègue de travail, ou quelqu'un avec qui vous prenez l'autobus vraiment régulièrement, ou encore un parent. Dans ce cas, il faut aller sous le signe de l'amitié, dans le respect de l'autre. N'abordez pas de front un sujet religieux avant d'avoir perçu une certaine ouverture sur le sujet chez votre interlocuteur. Et là, prenez note de ceci. Soyez attentif aux besoins. Prenez note de ça. Soyez donc attentif aux besoins ou aux préoccupations exprimées et profiter de ces ouvertures pour exprimer votre conviction sur le sujet ou vos expériences passées dans la mesure où elles ressemblent aux siennes. N'oubliez jamais une chose. Si vous voulez établir contact avec quelqu'un, il faut que ce quelqu'un semble que vous lui ressemblez. Si ce quelqu'un sent que vous ne lui ressemblez pas, le contact ne s'établira pas. C'est la raison pour laquelle hier, après le culte, alors que vous étiez tous bien habillés, veston, cravate, des beaux habits, et que moi, et j'ai fait exprès pour venir ici habillé comme ça, en short, en gougoune, pas de bas, puis un t-shirt. Je savais très bien que dans l'église adventiste, quand on vient au culte, on vient bien habillé. J'ai fait exprès d'être différent, pour que vous voyiez la différence. Et quand on a eu mangé le midi, et que vous vous prépariez tranquillement à faire cette réunion préalable pour ensuite sortir, j'ai tout de suite senti que vous alliez sortir avec les mêmes vêtements que vous aviez. Vous n'auriez jamais ressemblé aux gens chez qui vous alliez cogner. Alors, j'ai dit à quelques personnes, vous allez sortir habillé comme ça, allez-vous changer avant. Pourquoi? Vous devez ressembler aux personnes à qui vous allez parler. Si elles sentent que vous êtes différente, oubliez ça. Donc, soyez attentif aux besoins. C'est la première chose, les besoins et les préoccupations que la personne exprime. Et tentez d'être un peu comme cette personne-là et de lui parler de vos propres expériences par rapport à ses besoins à elle. Ensuite, autre principe, prenez note. Manifestez de l'attention, soyez prévenant. Manifestez de l'attention, soyez prévenant. Gagnez la confiance de votre interlocuteur. Suivez la méthode du Christ. Faites-en votre ami, votre interlocuteur, avant de le conduire à Christ. On trouve tout un monde de personnalités au Québec, depuis les gens les plus naïfs jusqu'aux gens les plus méfiants. Avant d'accorder sa confiance, chacun voudra être certain que vous en êtes digne. On voudra avoir des preuves permanentes de votre sincérité, de votre franchise, de votre loyauté. Car il y a tant de gens hypocrites qui séduisent et trompent pour abuser de la confiance des autres. Le Québécois est très méfiant. Lorsqu'au cours d'une conversation, vous désirez parler de votre foi, demandez la permission à votre interlocuteur. Par exemple, vous pourriez dire, « Me permettez-vous de vous raconter comment Dieu a agi dans ma vie? » Et en général, par amitié ou par curiosité, la personne sera positive, mais demandez la permission. Si vous ne demandez pas la permission, la personne va psychologiquement mettre un mur. Parce qu'elle va, surtout si elle n'a pas confiance en vous, surtout si vous n'avez pas déjà fait une certaine démarche d'amitié, la personne va se dire, « Oh, 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 qu'est-ce qui se passe ici? » Elle va mettre un mur. OK? Mais si vous lui demandez la permission avant, c'est que vous dites à la personne psychologiquement, « Est-ce que tu acceptes de m'ouvrir la porte pour que je te partage quelque chose? » La personne ouvre la porte, elle ne bâtira pas un mur. Elle vient elle-même d'ouvrir la porte. D'accord? Donc, demandez la permission. Dans les premiers contacts, il est préférable de parler de vos expériences, votre vécu, plutôt que de doctrine. Toutefois, faites-le de manière à faire naître chez votre interlocuteur le désir d'essayer de faire la même expérience que vous. Donc, quand vous parlez de vos expériences, essayez d'en parler de telle sorte que la personne qui est en face de vous va désirer faire la même expérience. D'accord? Plutôt que d'en parler d'une façon purement théorique, détachée, ou d'en parler comme si c'est une expérience que vous avez faite, mais qu'elle n'est pas nécessairement disponible pour tout le monde, cette expérience-là. Alors, la personne va sentir que non, finalement, ce n'est pas pour elle. C'est l'expérience de quelqu'un, mais ce n'est pas pour moi. Parlez-en plutôt comme quelque chose que tout le monde peut vivre.
Jonathan fait bien ça.
Autre chose aussi. En parlant de choses spirituelles, ne donnez pas l'impression que vous savez tout et que l'autre ne sait rien. OK? Ou que vous avez la vérité. Ne donnez pas cette impression-là non plus. Manifestez une attitude humble, amicale, offrant d'accompagner l'autre dans son cheminement spirituel plutôt que de le diriger. Je vais le répéter, ça. Quand vous allez être en contact avec les autres personnes, soyez avec elles comme si vous voulez accompagner cette personne-là. Autrement dit, la prendre à côté de vous et marcher avec elle spirituellement, psychologiquement. Plutôt que de lui laisser croire que vous voulez la diriger, c'est-à-dire marcher en avant d'elle en la tirant derrière vous. OK? C'est pas du tout la même chose. Vous allez voir que psychologiquement, puis moi j'applique ce principe-là même dans mon travail et dans toutes mes autres relations, j'essaie de toujours faire attention lorsque je suis en relation avec quelqu'un pour que la personne sente que je ne suis pas en train de lui dire quoi faire et où aller, ou que je ne suis pas en train de lui dire « voici la direction, suis-moi, tu n'as pas le choix », ou que je ne suis pas en train de la pousser dans le dos, mais plutôt que je suis en train de l'accompagner vers quelque chose. Ça, c'est vraiment juste un jeu psychologique. Vous allez le sentir à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Soyez capable de vous émerveiller avec la personne par rapport à ses propres trouvailles. Il est possible que la personne soit tellement loin, on parlait d'un moins 8 ou d'un moins 6 à un moment donné. Il est possible que la personne soit à moins 4, moins 5. Ça veut dire que elle ne connaît pas vraiment la parole de Dieu et elle vient juste de découvrir quelque chose de vraiment là, de base, de base, de base, de base. OK? Que Jésus est là pour elle. Vous, ça fait des années que vous connaissez ça. Ayez la capacité de vous émerveiller avec elle de sa découverte. Même si c'est une chose vraiment basique. La personne va beaucoup apprécier ça. Le lien va se resserrer entre vous. OK? Ne soyez pas un maître, un gourou, mais plutôt un compagnon, un ami. Faites du renforcement positif. Est-ce que vous connaissez cette expression-là? Renforcement positif? Non? Renforcement positif, c'est par exemple, à l'école du sabbat, je fais ça souvent, quand j'anime l'école du sabbat. Une personne qui a un peu moins de connaissances pose une question qui est... Je lui dis, ça c'est une bonne question. Je lance la question aux autres. Donc ça c'est le reste de l'école du sabbat. Mais je lui dis, c'est une bonne question ça. Renforcement positif. Peut-être que la question était à ce niveau-là, au niveau du reste de la classe. Mais pour la personne, la question était importante. Et pour pas que la personne se sente à ce niveau-là, elle-même, par rapport à la classe, renforcement positif. Ou un visiteur est dans la classe de l'école du sabbat. Je prends cet exemple-là parce que c'est des exemples que j'ai vécu récemment. Un visiteur qui ne connaît rien à l'Église, il apporte un commentaire. Mais c'est déjà beau qu'il apporte un commentaire dans une discussion de l'école du sabbat. Je le remercie, puis je lui dis, hey, c'est bien ça, c'est intelligent. Et puis on poursuit. Renforcement positif. La personne se sent acceptée, elle se sent valorisée. C'est très important ça. Faites du renforcement positif avec les personnes que vous côtoyez. Soyez ouverts et recevez toute question comme étant importante pour celui qui la pose. Et si la question est mal formulée, bien rétablissez la question avant d'y répondre. Peut-être que la personne ne sait pas trop comment poser une question sur un sujet en particulier. Vous savez ce qu'elle tente de dire, puis vous connaissez la réponse que vous voulez apporter, mais ça ne marche pas trop ensemble. Avant de répondre à la question, reformulez simplement la question avec la personne. Est-ce que je comprends bien ce que tu veux savoir, c'est telle chose? Là, la personne va peut-être reformuler, et là, tu peux répondre. Il y a des personnes qui, comme nous tous ici, ont le langage facile, utilisent des mots un peu plus élaborés, font de belles constructions de phrases. Mais chez les Québécois, chez le peuple en général, vous allez rencontrer des gens qui n'ont pas du tout ce niveau de langage, qui ont de la difficulté à exprimer une idée. Et donc, il est possible, effectivement, que les questions posées ce sera plus ou moins bien fait. Alors, reformulez plutôt la question avec la personne pour savoir vraiment qu'est-ce qu'elle demande, plutôt que de risquer de donner une réponse qui n'est pas une réponse à la question. OK? Ce qu'il faut se souvenir, c'est que le Québécois a souffert beaucoup de peur. Ça, vous pouvez le prendre en note aussi. Le Québécois a souffert beaucoup de peur. Peur de Dieu, peur des sanctions de l'Église, peur de l'enfer, peur de la mort.
C'est un traumatisé.
Le Québécois est un traumatisé. Il est vraiment un traumatisé. Aussi, il vous incombe de l'aider par votre témoignage à exorciser ses peurs, en lui révélant le vrai caractère de Dieu, qui est amour, miséricorde, compassion, justice, bonté, fidélité, patience. D'accord? Il faut chercher à réconcilier le Québécois avec Dieu. C'est ça qui est important. On parlait de la différence entre prosélytisme et faire des disciples. Prosélytisme, c'est chercher à faire que le Québécois adhère à votre idée religieuse pour qu'il se joigne à l'Église et qu'il soit sauvé. Faire des disciples avec le Québécois, ça va être un long cheminement. La première étape, c'est chercher à ce que le Québécois se réconcilie avec Dieu. Pourquoi? Parce que dans son passé, il a été tellement traumatisé, il a rejeté Dieu avec l'Église. En rejetant l'Église, il a rejeté Dieu en même temps. Il faut donc chercher à faire en sorte que le Québécois se réconcilie avec Dieu. D'accord? Oui? Bien sûr! Oui.
Ça s'applique plutôt aux plus âgés ou est-ce que c'est quelque chose qui a été transmis des grands-parents aux parents, des parents aux enfants?
Ça s'applique davantage aux plus âgés. Mais je te dirais que les gens de ma génération, dans les 40 ans, vont ressentir sensiblement la même chose aussi. C'est presque comme si ça s'était transmis à travers les gènes. C'est bête à dire, là. Je sais que biologiquement, ça tient pas la route. Mais d'une certaine façon, ça s'est transmis.
Mais c'est comme des restes de l'esclavage, par exemple.
Oui. Oui. Oui, exactement. Tout à fait.
Si je peux apporter une nuance pour répondre à cette question, c'est qu'en France urbaine, il y a plus d'expérience d'une génération à l'autre que durant la religion. Les gens sont conservateurs, puis le pari, c'est peut-être plus en religion, puis il y a une différence peut-être plus évidente entre les générations en France urbaine. Les gens sont plus ouverts envers les différentes communautés culturelles, puis plus ouverts à d'autres types de religions aussi.
C'est sûr qu'il y a plusieurs. L'intervention de Lynn me fait penser à quelque chose. Historiquement, le peuple québécois a toujours été un peuple, je vais utiliser cette expression-là, mono-religieux. Il n'y avait qu'une seule et unique religion possible, acceptée et véhiculée à travers la société, c'était le catholicisme. Même pas la chrétienté, là. Le catholicisme. De sorte qu'il n'y avait qu'une boîte dans laquelle tu pouvais avoir des valeurs morales. Il n'y avait qu'un seul endroit où tu pouvais aller chercher des valeurs morales, c'était le catholicisme. Alors, le Québécois n'a pas été habitué à aller chercher ailleurs des valeurs morales, à aller chercher ailleurs un sens à sa vie. Il n'y avait que ça. Donc, c'est plus difficile pour lui de se réconcilier avec Dieu à cause du fait qu'il n'y avait qu'un seul véhicule et il a rejeté le véhicule. Oui?
Une des choses que je sais, c'est que dans le catéchisme, on apprend aussi qu'il n'y a de salut que dans l'Église catholique.
Ben voilà.
Donc, c'est clair que beaucoup de personnes se disent que s'il y a le salut que dans l'Église catholique, les gens, par contre, c'est comme quelque chose qu'on sait, même quand on le rejette, c'est battant, même quand on dit, moi, je suis. Évangile n'importe quoi, vous dites, mais le salut existe dans l'Église catholique, quand j'ai lâché tout ça.
C'est comme une crainte en même temps. Une crainte d'être perdu.
Oui.
Parce que si la personne a peur d'être perdue, elle ne va pas être tentée d'aller voir ailleurs. Elle va être tout le temps coincée dans la même boîte.
Parce qu'il avait dit aussi dans
le chat. Oui. Parce que les traditions de l'Église restent quand même encore profondément ancrées dans la société parce que les racines ont été plongées extrêmement profondément. L'arbre a été coupé et a été jeté, mais le tronc et les racines sont encore là. D'accord? Et la société vit avec ça. Donc oui, la société, les gens, les Québécois, si on devait leur poser la question, comment obtenir le salut? Inévitablement, vous verriez que ça tourne vers la religion catholique, vers les racines anciennes, de ce côté-là. Inévitablement, vous verriez ça. Alors maintenant, il nous faut apprendre à appliquer le principe des 3 A, comme l'a exprimé Mark Finley. Prenez note. Accepter, c'est le premier A. Accepter la personne au niveau où elle se trouve. C'est la première chose à faire. Il ne faut pas oublier que les bribes d'informations reçues sur Dieu, sur la vie, sur la mort, sur le ciel, sur l'enfer, contiennent toutes des parcelles de vérité. Mais celles-ci sont mélangées de traditions et de mythologies populaires. Ne traitez pas la personne à votre niveau actuel. Mais acceptez-la comme elle est et conduisez-la vers plus de lumière dans la vérité. Un peu à la fois. D'accord? Deuxième A, approuver. Approuver dans la mesure du possible toute vérité découverte au cours de sa prise de conscience. C'est le cheminement d'accompagnement dont on parlait tout à l'heure. Manifestez votre approbation partout où cela est possible, afin de bâtir avec la personne, à partir d'une base qui lui est familière, bâtir sur de bonnes informations reçues antérieurement et au cours de ses recherches précédentes. Donc, le but, c'est de bâtir. Bâtir à partir des bribes de vérité qu'elle connaît, même si c'est tout mélangé à de l'erreur. Bâtir à partir de ça. Ensuite, faire du renforcement positif au fur et à mesure qu'elle découvre des choses nouvelles et tranquillement continuer à bâtir avec la personne là-dessus. Troisième A, c'est acceptez-le. Accueillez-le. Accueillez-le. Jésus savait manifester cette attitude d'accueil envers les gens rejetés par la société. Il leur manifestait de la bonté et de l'empathie. Pensez aux lépreux qu'il a guéris, aux publicains avec qui il a mangé, aux gens de mauvaise vie qu'il a côtoyés. Tous étaient accueillis par Jésus. De plus, dans le travail en faveur des Québécois, ne vous attendez pas à des prises de position rapides. Il faut penser à une œuvre de longue haleine. Faites de chaque cas un objet de longue durée. Car, alors même que vous aurez convaincu quelqu'un à recevoir le baptême, votre travail ne fait que commencer, puisqu'il aura encore besoin, pour son développement et son épanouissement dans l'Église, de votre amitié, de votre compréhension et de vos conseils. Ça, c'était l'approche par l'amitié. Maintenant, allons-y avec une autre approche. Voilà. L'approche conversationnelle. Alors, cette méthode consiste à partir d'un sujet banal et conduire graduellement la conversation vers un sujet biblique, l'approche conversationnelle. Par exemple, vous êtes avec le voisin. Hein? Belle photo. Dieu est bon, j'avais tout ça sur mon ordinateur. Vous êtes avec le voisin, il fait beau. La conversation tourne autour de la situation difficile que, par exemple, la politique de George W. Bush a entraînée pour les États-Unis et même ici au Canada, alors qu'on en ressent les effets négatifs sur l'économie. Bon. Vous pouvez, par exemple, vous étendre avec lui sur le sujet des temps difficiles et lui demander « Pensez-vous que demain sera meilleur? » ou « Comment entrevoyez-vous l'avenir? » En écoutant sa réponse, vous dirigerez le sujet vers un sujet biblique. Les prophéties qui annoncent des jours difficiles pour les temps de la fin. Vous pourriez dire, « Savez-vous que depuis longtemps, plusieurs personnes avaient prédit que notre époque serait ainsi? » Me permettez-vous de vous dire ce que les prophètes de la Bible ont annoncé concernant notre époque? Me permettez-vous? Très important. Il est fort à parier que la personne, ou que la permission, pardon, vous sera accordée. Et alors, vous mentionnez quelques textes qui parlent du temps de la fin. Si la personne vous semble vraiment intéressée, invitez-la à en savoir plus en lui offrant revues, livres, ou peut-être même des cours de Bible par correspondance. Mais ça, vous vous apercevrez que ce sera probablement une personne qui est dans les moins 1, moins 2. Ou peut-être même plus 1, plus 2. C'est des chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus, mais qui n'ont pas de connaissance. Ou pas celle-là, en tout cas. Avec les moins 8, vous irez probablement pas aussi vite que ça. Et puis, on peut aussi utiliser ce que notre frère Irvin appelle la méthode de l'épluchure de l'oignon, et moi, j'ai fait le rapport avec la méthode FORT, F-O-R-T. D'accord? Supposons une rencontre fortuite dans le bus, le train ou l'avion. Vous faites la connaissance de quelqu'un qui est assis près de vous. La conversation commence sur les banalités usuelles, la neige, le beau temps, tout ça. Puis, on amène la conversation vers un niveau plus personnel. D'accord? Que faites-vous dans la vie? On parlait tantôt FORT, famille, par exemple. C'est le F. OK? On fait connaissance et réciproquement, on parle de ses activités, sa famille, son hobby. Puis, vous faites avancer la conversation plus en avant, en demandant à la personne comment sa vie serait affectée si ce qui fait son bonheur venait à lui manquer. OK? Après avoir entendu sa réponse, on donne son témoignage, en demandant toujours la permission à l'interlocuteur. Vous avez entendu parler de fort hier? On parlait de famille, occupation, ensuite religion, mais la sienne, OK? Et après, votre témoignage. C'est un peu la même chose avec l'épluchure de l'oignon. On commence avec des banalités, puis tranquillement, au niveau psychologique, on rentre à l'intérieur de la vie de la personne. D'abord par des choses avec lesquelles elle est à l'aise de parler, ses occupations, ce qu'elle fait dans la vie, sa famille. Et puis on rentre un petit peu au niveau personnel. Comment est-ce que vous vous sentiriez si? Et puis ensuite, on demande la permission, est-ce que je peux vous dire comment est-ce que moi, qu'est-ce que moi j'ai vécu, qu'est-ce que... OK? Mais demandez toujours la permission pour dire, pour passer de son domaine à lui ou à elle, à votre domaine. Demandez la permission pour dire, est-ce que moi je peux vous raconter ce qui m'est arrivé? D'accord? Quelle que soit l'approche adoptée, il faut éviter de brusquer les fondements de vie de votre auditeur. Beaucoup d'adventistes québécois ou autres ont coutume de faire ressortir les différences, ce qui fait leur fierté, plutôt que de chercher à faire ressortir les similitudes, ce qu'ils ont en commun, et à construire sur cette base-là. Ainsi, pour ces chrétiens, témoigner consiste à parler de ce qui nous différencie des autres, donc, de ce qui fait notre supériorité, sabbat, loi, régime alimentaire, végétarien, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça, témoigner. Témoigner, ce n'est pas dire, voici de quelle façon nous sommes différents. Témoigner, c'est, voici de quelle façon toi et moi, nous sommes pareils. Et après, on peut l'accompagner pour que vraiment la personne devienne pareille. D'accord? Alors, cette approche qui est la mauvaise, là, parler des choses qui nous différencient, cette approche a souvent pour résultat l'élévation d'une barrière entre celui que l'on désire amener à Christ et nous-mêmes. N'oubliez pas, nous dit notre frère Irvin, que ce que nous avions dit précédemment, ne manifestez pas un esprit de supériorité ou une attitude suffisante envers la personne. Communiquer les nouvelles vérités en partant des anciennes références de la personne à qui vous parlez et ajouter graduellement de nouvelles informations. Le sage Salomon dit, « Le sentier du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » N'arrivez pas avec toute la lumière. Vous allez éblouir la personne, elle va fuir. C'est tranquillement pas vite que Dieu révèle sa lumière. Et c'est tranquillement pas vite qu'on va devoir faire la même chose aussi. Alors, la méthode du Christ. Notre frère Hervé nous a donné plusieurs citations ici. Le temps avance déjà beaucoup. Je ne vais pas nécessairement lire tout ce que Irvin a donné ici, mais faire une espèce de résumé. En quoi consistait la méthode du Christ? Alors, il nous dit, permettez-moi de vous présenter ses principales caractéristiques et comment sa mise en application peut transformer et révolutionner le témoignage pour Christ. Quoique simple, il est cependant hautement efficace. Car l'expression même, c'est l'expression même du caractère du Christ. Transcendant le temps, la culture, la race, la religion, la géographie, il a un attrait universel. C'est en fait la façon sûre et certaine de trouver le chemin du cœur humain. Madame White, dans son ouvrage « Ministère de la guérison », souligne les diverses étapes qui composent la méthode du Christ. Elle écrit « C'est uniquement la méthode du Christ qui nous donnera le vrai succès dans la recherche des âmes. Le Seigneur se mêlait aux hommes comme quelqu'un qui leur voulait du bien. Il leur manifestait sa sympathie, donc physiquement on se mêle. On manifeste sa sympathie. Il pourvoyait à leurs besoins. Et le résultat de ça, il gagnait leur confiance. Et c'est une fois qu'il avait gagné la confiance des gens qu'il se permettait de dire, « Suis-moi. » On se mêle aux gens. On leur manifeste la sympathie. On pourvoit leurs besoins. Et les gens vont nous accorder leur confiance. Une fois qu'ils nous ont accordé leur confiance, là, on peut se permettre de parler un peu plus de nous, de notre expérience, tout ça, pour que les gens aient le goût d'avoir cette même expérience. Et là, qu'on puisse se permettre de leur dire, « Suis-moi. » D'accord? Ça, c'est la méthode du Christ. Alors, le Christ, il investit en eux son temps, son énergie, ses idées, les formant pour le travail. Donc, une fois que les gens vous ont accordé la confiance, vous pouvez, vous permettre maintenant de bâtir avec ces personnes-là. Mais vous allez devoir accorder votre temps, vos énergies, vos idées pour pouvoir bâtir avec ces personnes-là. Et éventuellement, la personnalité de Christ a imprégné également la personnalité des gens qui étaient avec lui. Et ce sera la même chose pour vous, pour nous. Notre personnalité pourra imprégner la personnalité de la personne qu'on cherche à amener à Christ. Qu'est-ce que disait l'apôtre Paul? Hein? C'est pas à cette référence-là que je veux en arriver. Qu'est-ce qu'il disait? L'apôtre Paul se permettait de dire, « Soyez mes imitateurs, comme moi je suis un imitateur de Christ. » Et c'est ça qu'on doit arriver à pouvoir faire nous aussi. À pouvoir faire sentir à la personne qui est à côté de nous, « Sois mon imitateur. » Je vais te conduire assez loin pour que tu puisses toi-même voir Jésus, et là Jésus va te prendre en charge. Sois mon imitateur. Il faut qu'on ait gagné la confiance de la personne pour pouvoir faire ça. Et la condition préalable à tout ça, et je vais terminer avec ça ici, c'est que pour qu'on puisse arriver à ça, il faut d'abord qu'on ait une véritable relation avec Jésus. Là, je débarque du texte. Je ne veux plus lire les choses qui sont dans ça. Pas qu'elles ne sont pas bonnes. Mais je veux vraiment conclure. Si on veut pouvoir arriver à dire aux gens, suis-moi, fais-moi confiance, fais comme moi, il faut que la personne puisse voir en nous le Dieu qu'on prêche. Et comment est-ce que la personne va être capable de voir en nous le Dieu qu'on prêche? Si Dieu est vraiment vivant en nous, pas vrai? De quelle façon est-ce qu'on peut faire en sorte que Dieu soit vraiment vivant en nous? En obéissant, en lui donnant de la place dans notre vie, en donnant à Dieu la permission qu'il nous change, en nous demandant de nous greffer à lui, comme les sarments sont attachés au tronc, Une chose que je prêchais à un moment donné dans certaines églises, c'est sur la prière. Qu'on arrête de temps en temps de prier pour avoir et qu'on prie pour être. Qu'on change de verbe. Pour être transformé et être à l'image de Christ. C'est seulement si Dieu est vraiment, mais vraiment vivant en nous que les gens vont le voir. Pour que cette grande lumière puisse transpercer notre personnalité. Et que les gens la voient. Et à ce moment-là, ils vont être prêts à faire confiance à qui nous sommes. Pourquoi? Parce qu'ils ne verront pas notre noirceur, mais ils vont voir la lumière de Dieu. Et là, ils vont accepter de nous suivre. Alors, j'espère que ça a répondu un petit peu à vos attentes. Et peut-être que vous avez vu des parallèles importants avec les autres présentations que vous avez eues hier et avec l'expérience que vous avez faite aussi dans votre porte-à-porte. La technique de l'amitié, si vous avez accès à une personne de façon régulière, la technique de l'épluchure de l'oignon ou FORT, si c'est une rencontre fortuite, vous récolterez probablement pas cette personne-là, mais vous aurez semé quelque chose. Et vous participerez à la récolte prochaine que quelqu'un d'autre fera. Votre travail aura été tout aussi important, parce que l'autre personne ne pourra rien récolter s'il n'a pas d'abord été semé. D'accord? Et la condition préalable à tout, cultivez Dieu dans votre vie. Sinon, arrêtez tout. Ça ne sert à rien ce que vous faites. D'accord? Merci.